Vous écoutez France Musique.
Vous êtes sur France Musique. Il est minuit. Es ist Mitternacht. À l'improviste. Anne Montaron.
L'improviste va se faire l'écho ce soir du festival Umlaut qui s'est tenu à Paris à la fin du mois de novembre. Et c'est un concert solo du pianiste anglais Pat Thomas qui va être au cœur de la première émission consacrée à ce jeune festival à l'esprit tout à fait audacieux. Le mot Umlaut parle d'abord aux mélomanes de langue allemande. Ce nom n'a pas été choisi par hasard par le collectif de musiciens actifs sur ce festival et initiateur d'un label, le label Umlaut Records. Ève Risser et Joris Rühl, musiciens de l'équipe parisienne d'Umlaut, témoignent.
Eh ben, Joël Grip nous a bien expliqué qu'au début, il utilisait ce mot parce qu'il avait vu la définition qui voulait dire transformation of sound, tous les symboles qui permettent de changer le son des lettres. Du coup, il voulait donner la chance de donner des voix à des musiques moins entendues, sans esthétique, sans barrière esthétique.
Umlaut, c'est le tréma en allemand. C'est de là que vient le sous-titre Transformation of Sound. Pourquoi on le dit en anglais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi.
Joël, il a commencé le label aux États-Unis avec le premier CD de Gary Thomas. Il était implanté là-bas à l'époque.
Les musiciens et musiciennes d'Umlaut sont basés à Paris et à Berlin et sont tous très présents dans le champ des musiques improvisées, contemporaines et dans celui du jazz. L'inouï les intéresse et tout ce qui, dans le domaine de la recherche sonore, trace une voie singulière. Si le collectif s'est mis à organiser deux festivals annuels, le premier à Paris, le deuxième à Berlin, c'est parce qu'il a à cœur de donner à entendre des figures singulières et précieuses qui se produisent trop rarement dans ces deux pays. C'est le cas justement du pianiste Pat Thomas, musicien d'une cinquantaine d'années installé à Londres et qui a offert le 30 novembre dernier au public de la Dynamo à Pantin son tout premier concert solo en France. Lui qui a joué et joue aujourd'hui avec les plus grandes figures de la scène improvisée anglaise, européenne et américaine, parmi eux des musiciens tels que Derek Bailey, Lol Coxhill, le London Improvisers Orchestra, Tony Oxley, Steve Noble, Han Benning, ou encore Eugène Chadbourne et John Zorn. Pour faire connaissance avec ce pianiste au toucher très singulier et original, rien ne vaut de l'entendre lui-même parler du piano et de son premier contact avec l'instrument. J'ai touché mon premier instrument à 8 ans. L'histoire est assez drôle, mais vraie. J'ai vu jouer à la télévision à la maison Liberace. Il jouait sur l'un de ces pianos extravagants, un piano tout blanc, je ne sais plus exactement lequel, avec des chandeliers. Et je suis tombée littéralement amoureux de ce piano. Et ma mère, qui jouait un peu de piano et d'orgue, voyait bien que cela m'intéressait. Elle m'a demandé si je voulais jouer du piano. Je lui ai répondu oui, mais de ce piano-là et rien d'autre.
With candles. So when my mom said, oh, but, you know, you can play the piano, I sound great. So.
Et ensuite, j'ai joué donc sur mon premier piano. Et quand j'ai vu l'instrument, un simple piano droit, eh bien j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas du tout le piano de la télévision. C'était ça, mon premier contact avec le piano. Et puis, évidemment, il y a eu les années d'apprentissage et cela prend du temps d'apprivoiser cet instrument. Surtout qu'on n'en a pas toujours un sous les doigts. J'envie pour ça, évidemment, les guitaristes, les saxophonistes qui peuvent bouger avec leur instrument, les emmener avec eux partout où ils veulent, partout où ils voyagent. Et pour nous, pianistes, c'est différent. Et à chaque fois qu'on s'assied au piano, eh bien, il faut réapprivoiser l'instrument, se reconnecter à lui. Tout le monde ne peut pas s'acheter un piano et se promener avec lui comme faisait Oscar Peterson ou Steve Miller. C'est d'ailleurs assez ruineux comme formule. Et puis, il y a la pratique au quotidien. Quand on est jeune, c'est difficile. Il est important de beaucoup travailler pour acquérir une affinité avec cet instrument, une sorte de contrôle. Et ce n'est qu'au bout de plusieurs heures de travail, 5 à 6 heures, je crois, qu'il devient vraiment votre ami. 2-3 heures ne suffisent pas. C'est un vrai labeur.
It becomes your friend. Mm. Yeah.
Sur la scène de la Dynamo à Pantin, Pat Thomas n'avait pas de piano blanc à chandelier, mais un beau piano à queue noir dont il a savouré avec gourmandise les sonorités de ses longues mains agiles. Il a commencé le concert debout, penché sur les cordes de l'instrument. Le piano dont il a joué ce soir-là était-il encore un piano? Ne sonne-t-il pas plutôt par moments comme un immense tambour, parfois une cora, qu'il s'amuse à approcher de toutes les manières imaginables et en penser et en toucher, avec à la fois candeur, douceur, détermination et audace. Mais peut-être l'entendrez-vous encore autrement, et Pat Thomas en serait ravi, car sa curiosité pour le sonore n'a pas de limite.
Thank you.
improvisation au long souffle de Pat Thomas, invité par le festival Umlaut à Pantin le 30 novembre dernier. Un souffle d'autant plus long que le musicien ne se laisse distraire par rien. Le jeu n'est pas un vain mot chez ce musicien très concentré, sensible à l'espace, sensible à l'acoustique et à l'écoute du public, et en premier lieu, bien entendu, à la qualité du piano dont il joue. Car Pat Thomas n'a pas tous les jours la chance de jouer sur un bon piano, cela ne fait pas partie de ses conditions de vie habituelles, lui que ses origines sociales n'ont pas toujours avantagé. Un beau piano est toujours un cadeau pour ce musicien très aidé et encouragé par ses aînés britanniques. Et lorsque les conditions ne sont pas réunies, eh bien Pat Thomas a plus d'un tour dans son sac. Il peut également jouer du synthétiseur, de l'électronique ou se contenter d'un piano droit. Ce soir-là, à Pantin, les conditions justement étaient réunies et Pat Thomas n'a pas dissimulé son bonheur d'être là et de vivre avec le public du festival Umlaut ce moment de musique, une musique créée dans l'instant, sans prédétermination aucune, puisque chaque concert solo est une nouvelle exploration, comme si l'instrument vivait sa naissance sous ses doigts.
No predetermined ideas, and also you need to sit down and try and.
Lorsque Pat Thomas improvise en solitaire, il vient sur scène sans idée prédéterminée. Il reçoit simplement l'acoustique de la salle et l'écoute du public, et son jeu se développe par rapport à cette écoute. Il faut capter l'attention, dit-il encore. La qualité des idées développées au cours d'un solo dépend de cette connexion avec le public. Et c'est une des raisons qui font que la performance solo est exigeante et difficile et qu'elle nécessite beaucoup de temps, beaucoup de travail en amont. Et dès qu'on s'aventure à vouloir comprendre ce qu'il y a derrière l'improvisation, les choses deviennent difficiles. Difficile, par exemple, de répondre aux questions que Derek Bellet avait coutume de poser aux musiciens et qu'il m'avait posées sur notre pratique musicale, le genre, le style de ma musique. Tout cela est très difficile à dire. Et curieusement, improviser est l'expression musicale la plus ancienne, la plus traditionnelle partout dans le monde, mais c'est sans doute la plus difficile à cerner et à définir. C'est étrange comme phénomène, mais c'est un fait. Et surtout quand elle est jouée à un niveau supérieur par des musiciens qui ont un vrai chemin. On ne le sait pas toujours, mais il y a beaucoup de techniques de jeu dans l'improvisation qu'on associe souvent à la musique contemporaine, mais qui ont d'abord été explorées par des improvisateurs. J'ai joué par exemple une version de Contact de Stockhausen avec des improvisateurs, et c'était très intéressant comme expérience. On avait la partition, mais on avait choisi d'improviser. Certains n'assumaient pas entièrement ce choix. Pourtant, les partitions comme celle-là impliquent la notion d'interprétation. La musique ne peut pas être à la lettre celle de Stockhausen. Quelqu'un comme Kantarsky, par exemple, était remarquable, un remarquable improvisateur. Et sa collaboration avec Stockhausen s'est interrompue à cause des libertés qu'il prenait avec la partition, justement. Ensuite, il a vraiment joué sa musique et la plupart de ses œuvres ont un lien très fort à l'improvisation, de la même manière que les premières pièces de Boulez, à mon avis. Il y a une grande mystification quand on dit qu'un improvisateur ne sait pas ce qu'il fait. C'est faux. Il sait très bien. Et certains compositeurs l'ont compris. Ils font confiance aux musiciens et laissent de la place à l'interprète.
A left-hand piano festival, all left-handed piano music, and I played a composition.
J'ai par exemple participé à un festival de pièces pour piano exclusivement dédié au répertoire pour la main gauche. J'ai joué une pièce de Malcolm Atkins. Il avait écrit sa pièce, mais je pouvais improviser librement à partir des matériaux conçus par lui. C'est un exemple de collaboration tout à fait satisfaisant. Quand un musicien improvise, nous disait Pat Thomas, il sait ce qu'il fait. Quand un pianiste pose des objets sur les cordes du piano, ce que Pat Thomas n'a pas fait ce soir-là à Pantin, il ne le fait pas au hasard.
Prepared piano, this is an interesting, to me, it's interesting as well because La
question du piano préparé est intéressante. Les pianistes improvisateurs ont une approche particulièrement organique de leur instrument. Ils ont essayé chez eux tellement de choses, exploré tellement de recoins du piano. Un bon exemple de cela est le pianiste Keith Tippett. Le moindre objet posé sur les cordes a un sens chez lui. Rien n'est laissé au hasard, tout est pensé, tout est pesé. Préparer le piano en improvisation libre n'est pas toujours facile. J'aime pouvoir être libre des sons que je produis. En anglais, on utilise souvent l'expression « ad hoc play ». Or, improviser pour moi, c'est jouer la musique la plus cohérente possible en temps réel, une musique qui ait tout son sens. Et je suis d'accord avec le saxophoniste Evan Parker lorsqu'il dit qu'il n'a pas envie de devenir un musicien expérimental, car finalement, il n'expérimente rien. Il sait ce qu'il fait.
Thank you.
Une improvisation de Pat Thomas se termine comme elle a commencé. Le musicien va droit au but, il ne connaît pas la complaisance ni le maniérisme. L'organique est sa loi. L'instrument est approché avec une gourmandise à la fois patiente et exhaustive qui ne laisse rien en friche ou presque rien. Avant et après ce moment-là, le silence et la résonance. Pat Thomas a signé son premier disque solo chez Eminem en 1999. Un troisième est paru en 2011 sur le label Fataka. Entre les deux, le pianiste a réalisé un autre disque solo, des improvisations sur des thèmes du guitariste Derek Bailey, avec lequel il a eu la chance de jouer, et de Thelonious Monk, l'un des grands inspirateurs de Pat Thomas.
Monk's the master of brevity. He's the master of brevity.
Je pense que ce qu'on peut dire de Monk, c'est que c'est un maître de la concision. Ce que certains musiciens jouent sur 25 chorus, il le jouait, lui, sur 5 chorus, et chaque note comptait. Et en cela, c'est l'un des plus grands improvisateurs que je connaisse, car il donne du sens à la moindre note jouée. Par ailleurs, la première fois que je l'ai entendu, j'ai compris ce que voulait dire jouer rythmiquement dans le temps. Car de toute évidence, s'il avait de très bons batteurs dans son orchestre, c'était lui le meilleur.
Il avait de grands drummers, mais il était toujours le meilleur drummer dans la bande. And the fact is he's very important, I think, for improvisers. I'd recommend
tous les musiciens improvisateurs devraient, je pense, écouter Monk.
He created a sort of system where every note has to count. So it's very much
il a créé un système musical où chaque son produit a sa signification, son poids. Et puis il a aussi inventé un nouveau vocabulaire pour le piano, bien évidemment. Avec lui, le piano est devenu un instrument rythmique, on l'oublie parfois, et surtout, son univers harmonique influence beaucoup de musiciens jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup lui doivent, je pense par exemple à Anthony Braxton ou à des compositeurs d'aujourd'hui qui ne le cachent pas.
Monk, when I first heard him, when I heard Evidence, it's a serial piece. I mean, he was creating a new sort of.
Monk est très important pour moi. La première fois que j'ai entendu Evidence de Monk, je me suis dit, mais c'est de la musique sérielle. Il avait créé une sorte de musique sérielle à partir du langage du bebop. Et c'est la raison pour laquelle ces pièces sont si difficiles à jouer pour un pianiste. Peut-on d'ailleurs les jouer correctement?
Very far out, and I don't think they understood it. They didn't understand this idea of space. Everybody associates the idea of space with Bill Evans, but in fact, Monk.
De la même manière, on ignore parfois sa relation à l'espace, mais il a inventé quelque chose. Là. Quelque chose qu'on attribue souvent à Bill Evans, mais je crois que Monk a été le premier à travailler là-dessus. Et si vous me laissez parler sur Monk, ça va faire toute une émission sur ce sujet.
Ok. Thank you.
tout étonné d'être rappelé par le public de la Dynamo de Pantin, Pat Thomas a joué une dernière improvisation, une miniature cette fois, et il a quitté la scène comme il était entré, presque timidement, en s'effaçant pour ainsi dire en fond de scène comme pour se faire oublier. Le piano, lui, n'a sans doute pas oublié le jeu singulier de ce musicien attentif à l'espace, au rythme et à l'infinie richesse de timbre de son instrument de prédilection, donc le piano. Pat Thomas a également enregistré un disque solo où il n'apparaît qu'au synthétiseur et à l'électronique. Il joue parfois des deux, c'est ce qui se passe sur le disque Wazifa, paru sur le label Psy Records. Tour à tour, au piano et au synthétiseur, Pat Thomas improvise là avec le contrebassiste australien Clayton Thomas et le batteur suédois Raymond Tweed, batteur également invité pour cette édition du festival Umlaut à Paris. Le festival Umlaut parisien, c'est une petite équipe de 5 musiciens, Pierre-Antoine Badarou, Sébastien Bélia, Antonin Gerbal, mais aussi 2 musiciens familiers de cette émission, la pianiste Ève Risser et le clarinettiste Joris Ruhl, qui nous livrent maintenant quelques clés sur l'aventure menée par le label Umlaut Records.
On a vraiment décidé d'avoir ce label pour affranchir nos projets artistiques, pouvoir tourner des pages et avancer. C'était pas dans un but de dire bon, le disque est encore très vivant, on veut vraiment, c'est l'objet disque qu'on aime. Il y avait vraiment ce but de faut y aller, quoi. Donc on va pas attendre qu'on sorte nos projets complètement parfois farfelus ou moins farfelus, mais
Umlaut est quand même à démarrer sur autour de la musique improvisée plutôt.
Oui.
Et on est en train aussi de prendre un virage, en tout cas avec l'intégration en ce moment d'un compositeur qu'on aime bien, Carl Nejlund, qui nous a écrit aussi un duo. Et c'est aussi une façon de mettre l'écriture comme enjeu musical et comme enjeu de rencontre, créativité.
Il vit à Paris, Carl Nejlund ?
Il vit à Rouen. Voilà.
Ouais, il est souvent là, il est souvent à plein d'endroits.
Extrait de Fenêtre ovale, composition de Carl Nejlund, conçu pour le duo de la pianiste Eve Risser et du clarinettiste Joris Rühl, un disque Umlaut paru en 2011. Cette émission se referme sur cette fenêtre ovale. Un grand merci pour leur collaboration à Michel Gassic, Bernard Legac, Olivia Branger, Éric L'Ancien, Delphine Baudet, Françoise Cordet et Soisic Noël. À 1h sur France Musique, la fenêtre est grande ouverte pour que la musique y entre à flot toute la nuit. Bonne nuit.